Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Jacques Tassin, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un nouveau livre passionnant dont le titre est Le jardinier de Ronsard. Ça paraît aux éditions Odile Jacob et vous présentez, est-ce nécessaire? Vous avez déjà écrit plusieurs livres, notamment Penser comme un arbre et Pour une écologie du sensible. Alors vous êtes écologue, écrivain et passionné, donc un homme de science, un scientifique, homme de lettres, et vous prenez une écologie fondée sur notre relation sensible à l'altérité vivante. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre ?
Oui, bah, tout d'abord, merci pour cette présentation qui me semble alors modestement correspondre au personnage que je suis, qui suis effectivement aussi intéressé par l'écologie que par les réalités sensibles du vivant. Donc ce livre, même si c'est un roman, vient dans la continuité des précédents livres qui sont des essais que j'ai écrits aux mêmes éditions Odile Jacob et qui porte donc lui aussi à son tour sur la relation sensible que l'on peut avoir ou que l'on peut ne pas avoir envers le vivant. Et c'est pour cette raison que je mets en scène dans cette fiction, car ça reste une fiction, une rencontre entre le personnage du poète Pierre de Ronsard et un jardinier, qui est un jardinier reconverti. Et, Pierre de Ronsard, en dépit de ce que l'on dit habituellement de lui, n'est pas très doué pour observer et approcher le vivant. Bon, il n'en connaît vraiment que des généralités qui tiennent de la culture de la Renaissance. Hugues Noir l'est davantage, lui, mais les mains dans la terre, et il est au contact premier de ces réalités sensibles et vivantes. Et Ronsard va apprendre petit à petit du jardinier qui s'appelle Hugues Noir et se rendre compte que d'une certaine manière, bon, il est évidemment très satisfait de son itinéraire, de sa réussite sociale, mais il se rend compte également qu'il est peut-être passé à côté de la vie quotidienne et de ses plaisirs et de ses joies.
Alors, Pierre de Ronsard a-t-il, dans son ascendance, toujours été propriétaire d'une particule ? Ronsard, pourrait venir des ronces ardentes de ses armoiries. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus autour de Pierre de Ronsard et comment il en est arrivé ? Donc, il n'était pas d'ascendance noble dès le départ.
Non, effectivement. Et il s'est attaché durant sa vie à imaginer des récits qui n'étaient pas justes, selon lesquels il aurait son ascendance dans des pays de l'Est, bon, ce qui permettait évidemment à l'époque d'éviter que personne ne soit en mesure de vérifier de tels propos. Et en réalité, cette particule, il se l'est donnée lui-même. Avant, c'était la famille Ronsard et non pas la famille de Ronsard. Et ses ascendants, son arrière-grand-père et ses prédécesseurs étaient des gardes forestiers rattachés à la fameuse forêt de Gastine. Et son grand-père a été échanson et écuyer du roi. Donc il a commencé à mettre un pied dans la cour du roi. C'était le Louis XII à l'époque. Et le fils de ce grand-père, qui était donc le père de Pierre de Ronsard, prénommé Loïs, il est devenu chevalier, il a été nommé chevalier de l'ordre de Saint-Michel par François Ier dès l'âge de ses 20 ans, donc quelqu'un de à la fois de très courageux, très méritant, et qui a fait les campagnes d'Italie et qui a découvert les beautés de la Renaissance telle qu'elle s'exprimait en Lombardie, et qui a tenté de ramener cela chez lui, aussi bien dans ses apparats esthétiques que dans ses apparats nobiliaires et éventuels. Donc Pierre Ronsard, qui n'est pas encore Pierre de Ronsard, s'est lui-même attaché en quelque sorte à faire valoir les aspirations de son propre père, qui, je ne vais pas dire que c'était un arriviste, le terme serait malvenu et sans doute faux, mais en tout cas, il avait une soif profonde de grimper dans l'échelle sociale, et Ronsard, je pense, avait une soif qui était de ce type, qui était encore plus manifeste, et il n'a cessé toute sa vie de cultiver sa propre gloire qu'il a atteinte et qu'il a méritée. Mais c'était un personnage très orgueilleux, hein. Même ses biographes de l'époque le reconnaissaient. Et de son temps, il disait que son œuvre serait encore connue plusieurs centaines d'années après. Ceci dit, il ne s'est pas trompé, puisque cette année, en fait, le 500e anniversaire de la naissance de Ronsard, et même si on n'a pas beaucoup parlé de lui, on le découvre encore dans les écoles, hein, comme je l'ai fait moi-même, comme nous l'avons tous fait, sans doute.
Alors, Pierre de Ronsard doit aussi une partie de ce qu'il a réalisé à sa rencontre avec Joachim du Bellay, qui lui est un très grand poète et qui est mort à l'âge de 37 ans. Donc Joachim du Bellay, avec Clément Marot aussi un petit peu, mais surtout avec Pierre de Ronsard, ils ont travaillé sur l'idée de la Pléiade. Oui. Et donc il y a eu aussi cette écriture de défense et illustration de la langue française par Joachim du Bellay. Donc ce sont deux moments très importants de la France, de l'histoire de la France, de la langue française, qui ont été en quelque sorte hybrides entre Joachim du Bellay et les poètes de cette époque, notamment avec Pierre de Ronsard.
Oui, c'est ça. Alors, ils se sont rencontrés, en 1547, donc Pierre Ronsard avait 23 ans, du Bellay était à peine plus jeune. Ils se sont rencontrés tout à fait par hasard au collège dit de Coqueret, où présidait en quelque sorte un érudit qui s'appelait Jean Dorat, qui était très versé dans les lettres latines et qui prônait l'imitation des anciens. Du Bellay, il a suivi plutôt Pétrarque, donc de Rome, et Ronsard a plutôt suivi les traces, au début, hein, de Pindare, qui était un poète de la Grèce antique, qui d'ailleurs fustigeait un peu la démocratie athénienne. C'est toujours intéressant de le signaler, parce que Ronsard a été un royaliste dans l'âme. Et puis on trouve des points communs aussi dans l'orgueil de Pindare et l'orgueil de Ronsard. Et donc tous les deux ont fondé ce qu'on appelait la Brigade dans un premier temps, puis qui est devenue effectivement la Pléiade, qui a rassemblé un petit groupe de poètes qui se sont attachés effectivement, comme vous venez de le dire, à refonder la langue française. Alors donc c'était tout à fait, comment dire, je vais pas dire à la mode, mais en tout cas tout à fait d'actualité avant que François Ier ne déclare l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui refonde la langue française. Et la démarche de la Pléiade, c'est effectivement de procéder à une sorte de greffe. C'est-à-dire une greffe de la langue française actuelle, qu'il s'agissait d'enrichir en la rattachant aux langues antiques, le latin et le grec. Et ce terme de greffe est intéressant parce qu'à la fois il relève d'une métaphore, hein, ici, c'est tout de même de cela dont il s'agit, mais il s'agit aussi d'une réalité de jardinier. Et dans ce livre, Ronsard et le jardinier Huppe-Noir vont d'abord se rencontrer dans l'exercice de la greffe, dans selon lequel Ronsard y voit plutôt des dimensions très intellectuelles et Huppnoir, évidemment, des dimensions beaucoup plus réalistes et beaucoup plus terre-à-terre, mais au sens très noble du terme. Mais c'est intéressant de voir à quel point, justement, dans l'art du jardin, on retrouve d'autres formes d'art, telles que l'art des lettres, puisque, en l'occurrence, c'est bien de cela dont il s'agissait lorsque Dubellay... Alors, c'est un ouvrage plus collectif que donner de la plume de Dubellay lui-même, oui. Lorsqu'ils ont écrit ensemble « Défense et illustration de la langue française », où il est question, précisément, de cet art de la greffe.
Alors, le roman commence par cette scène où Pierre de Ronsard revient à cheval, loin des fastes de la cour, pour retrouver son Vendômois natal dans la paix du prieuré de Croisval. Alors ce prieuré, c'est quoi ? Ce sont des dons de la cour à Pierre de Ronsard. Ça lui permettait de gagner sa vie. Maintenant qu'il se retire de la cour, il a des cures et des prieurés pour gagner un peu sa vie, quoi.
C'est ça, c'est exactement cela. Il en avait plusieurs. Il en avait une autre, un autre prieuré qui était le prieuré de Saint-Côme à Tours, au même moment où il a eu le prieuré de Croisval, donc qui se situe pas très loin de l'endroit où il était né dans le manoir de la Poissonnière. Et c'était effectivement pour les rois une manière de rétribuer des artistes auxquels ils étaient attachés, et tel fut le cas de Pierre Ronsard.
Oui. C'est quoi exactement un prieuré ? Ce n'est pas une église, ce n'est pas un cloître, c'est un endroit où on peut prier, où il y a quelqu'un qui est dévolu à la prière.
C'est ça. Donc on n'y officie pas de messe. D'ailleurs, Ronsard a été tonsuré, mais n'était pas prêtre.
Non.
Donc il n'était pas en mesure de célébrer des messes. Mais il veillait effectivement au maintien d'un lieu de prière qui relevait, alors non pas d'un ancien monastère, mais qui était lié à un ancien monastère, dont déjà à son époque, il ne restait que des ruines. Hein, les derniers quelques moines qui avaient habité dans cet endroit de Croisval, très joli nom d'ailleurs, étaient partis depuis déjà bien longtemps. Donc en l'occurrence, il s'agissait pour lui... finalement, à moindre coût, j'entends par là à moindre charge, de maintenir un lieu de mémoire qui intéressait aussi bien l'ordre ecclésiastique que la noblesse royale.
Mmh. Alors, Ronsard rêve, il rêve d'apprendre à marcotter la vigne,
oui,
pour appliquer l'idée de cette démarche à la langue aux Français de l'époque, qu'il veut embellir, élargir, pour en faire un outil propice à l'écriture de la poésie, pour embellir donc la langue et faire que le français devienne une grande langue riche de littérature, une langue où l'on écrit et que l'on parle comme le latin à l'époque. Alors cette idée, donc, que nous avons dit, qu'elle était un peu collective à ce groupe, d'abord pour la Pléiade et puis ensuite avec ce texte commun, la défense et illustration de la langue française. Donc il vient là, à Croisval, pour trouver un jardin, pour apprendre à marcoter la vigne, à faire des greffes. Et cette technique agricole qui s'intéresse aux végétaux, il veut l'appliquer à la langue, refaire une langue, faire une langue en lui mettant, en l'ornant de poèmes, en copiant, en s'inspirant des anciens. Donc c'est un travail agricole qu'il veut détourner vers un travail littéraire.
C'est ça, c'est une belle ambition première que de s'intéresser à la réalité de cette greffe, de cet acte de greffe, de cette opération de greffe qu'il ne connaissait que de manière métaphorique et intellectuelle, en parlant de la manière dont on peut raccrocher une langue à une autre. Et pour cette raison, il se disait qu'il l'avait peut-être encore plus attiré de l'art du jardin, pour voir s'il n'y avait pas d'autres techniques ou pratiques éventuelles dont il pouvait s'inspirer pour essayer d'améliorer la langue française et peut-être cette fois-ci en avoir l'autorité et puis l'apanage, quoi, puisque la dimension collective de la Brigade et de la Pléiade, elle a été un petit peu perdue par la suite, puisque Ronsard a fait un chemin beaucoup plus glorieux et reconnu que ses collègues du collège de Coqueret qu'il avait rencontré plus tôt. Voilà. Mais l'idée, en tout cas, de se rapprocher d'un jardinier et d'essayer en retour, quoi, c'est ça qui est intéressant, de tirer parti des pratiques
voilà.
Mises au point en milieu paysan. Elle était intuitive et astucieuse et porteuse et féconde, et c'est dans ce sens-là qu'il a tenu, alors parfois assez maladroitement, parce qu'il n'était pas très doué pour cela, à s'inspirer de ce que ce jardinier que j'ai appelé Huppe Noir dans mon livre pouvait lui montrer et lui enseigner.
Alors, cette idée, j'y reviens encore, d'application d'un procédé agricole à un procédé littéraire, donc l'appliquer à la... Est-ce qu'il l'a vraiment eu ou bien c'est une fiction? Est-ce, puisque c'est un ouvrage où vous hybridez au plan littéraire le propos biographique de Ronsard, donc la vie de Ronsard, la fiction historique et puis aussi l'essai naturaliste. Est-ce que cette idée que j'ai trouvée complètement ingénieuse d'emprunter au jardinage une technique et la greffer sur la langue pour et ça me fait penser un petit peu à l'hébreu que Israël a mis au point, enfin que des linguistes de l'époque, à partir de la Bible, ils ont drainé du vocabulaire biblique, il y a même des mots anglais, il y a des mots, donc il y a une création actuelle d'une langue à partir de réalités antiques.
Oui, oui, oui. Oui, alors effectivement, alors bon, ça reste une fiction, hein, ce livre, oui. Même si je me suis évidemment basé sur la plus grande proportion possible de faits réels que j'ai trouvé à la fois dans le pays de Ronsard, que je connais assez bien, et puis dans ses écrits. Mais effectivement, l'idée, c'était de procéder à une sorte d'hybridation.
Cette idée, finalement?
Bah oui et non, oui. La mise en scène est de moi, dans la mesure où toute cette réalité vécue, ben, elle n'a pas été notée, on l'a perdue. Donc moi j'ai essayé de retrouver sur les lieux ce qui avait pu se passer, en essayant d'y déceler à chaque fois une cohérence, donc un aspect plausible. Mais cette idée, c'était plutôt du Bellay qu'il avait eu lui-même. Alors je sais qu'il a tenu aussi, alors j'ai oublié le nom d'un auteur italien de l'époque qui avait eu effectivement cette idée. Bon, après la pensée glisse, et quand on pense à hybridation de deux courants, on pense nécessairement à l'opération de la greffe au sein d'un jardin.
Alors ce travail brillant sous-tend une documentation, un investissement dans les voyages, l'écriture, la lecture de textes, c'est complètement impressionnant, ça vous a demandé beaucoup beaucoup de temps, je pense.
Oui, c'est vrai. Alors, enfin, merci pour le qualificatif de brillant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai été besogneux, parce qu'il m'a fallu me rendre sur les lieux, laisser aller mon imagination, mes rêveries, observer de très près ce qui se passait dans cette campagne du Val de Loire, Loire sans E à la fin, hein, donc l'affluent, le Loire, et puis effectivement me documenter pour être certain que je ne raconte pas de bêtises, et que tout ce que j'avançais conserve un caractère vraisemblable. Mais je pense, alors je m'avance, je suis à la fois jugé parti en disant cela, mais je pense que, ou j'espère en tout cas que c'est le cas.
Et alors là, vous avez parlé de Huppe Noir. Est-ce que c'est un personnage dont vous avez rencontré le nom oui. dans vos lectures? Et oui. c'est le mystérieux gardien du jardin de Croisval et qui lui révèle la beauté poétique immédiate du règne végétal, alors que à l'époque, Ronsard l'avait lu dans des poèmes, dans antiques, etc. Là, il a sous le nez l'impressionnante beauté, les parfums, les bruissements, puisqu'il y a aussi les arbres, et quelque part, j'ai lu qu'il y avait une sorte de coulée de lumière, de vie, comme si la forêt, les arbres, étaient un trait d'union entre la terre et le cosmos.
Eh oui, eh oui. Alors, Huppe Noir, j'ai trouvé ce nom, pour tout vous dire, sur le monument aux morts de la ville de Couture-sur-Loire, à laquelle était rattaché le manoir de la Poissonnière, où est né Ronsard. Et il apparaît même plusieurs fois, donc sans doute plusieurs frères qui ont été tués au cours de la Première Guerre. Donc ce nom m'a plu, quoi, et me trouvait, je le trouvais... je sais pas, séduisant, en tout cas, il m'a touché, il m'a parlé, et c'est donc ce mot-là, ce patronyme-là que j'ai utilisé pour qualifier ce jardinier de Croisval. Alors, effectivement, il s'agit beaucoup de rencontres de la beauté, mais avec des acceptions ou des perceptions de la beauté qui étaient très différentes de la part de Ronsard et de la part de ce jardinier. Mm-hmm. De la part de Ronsard, c'est une beauté qui est, moi, je trouve, assez froide, qui est vraiment typique de la beauté telle qu'elle est célébrée dans une sorte de matérialisme esthétique de la Renaissance, qui est assez intellectualisé, où il est beaucoup question de code, de métaphores, et au bout du compte, pas tellement de rencontres réelles avec la beauté elle-même. Huppe Noir, lui, est sur un autre versant de la beauté qui est beaucoup plus sensible, qui est perçu, qui est vécu, qui le touche et qui lui parle surtout. Et c'est là où moi, il m'a semblé voir deux formes très différentes de la beauté, dans la mesure où la beauté, par exemple, des châteaux de la Loire, hein, monument typique et réussite typique de la Renaissance, cette beauté-là, elle m'émerveille, mais elle ne suscite pas en moi de la joie lorsque je la contemple. Par contre, la beauté que je trouve dans les multiples formes foisonnantes du vivant au sein d'un jardin, cette beauté-là me touche et me procure de la joie. Donc c'est une autre forme de beauté dont nous avons peut-être perdu le fil ou le sens, et c'était ça aussi l'un de mes propos ou l'une de mes intentions en écrivant ce livre, c'était une forme de mise en garde, puisqu'il me semble que cette beauté matérialiste ou cette esthétique matérialiste et froide de la Renaissance, elle perdure encore jusqu'à aujourd'hui, mais elle ne nous parle pas d'une beauté sensible, d'un lien premier avec le vivant, et bon, on sait ce qu'il en est, et on peut de l'état de la biodiversité, puisqu'on parle de biodiversité aujourd'hui, et l'on peut se demander s'il se désintéresse de la part de nos dirigeants, hein, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient des grands patrons de grandes entreprises, on peut se demander si ce désintérêt ne vient pas finalement d'une déconsidération de la beauté immédiate du vivant en faveur d'une beauté plus lointaine, qui est cette esthétique dont je viens de parler, mm-hmm. et qui était cultivée aussi, évidemment, par les cours, hein, puisque les cours royales, ça leur permettait de faire valoir et de se réclamer de cette beauté que je qualifie de froide, et puis aussi de se tourner aussi du côté de Dieu, puisque l'un des fondements, enfin lorsqu'on s'intéresse un petit peu à ce qu'il y a derrière la beauté, l'un des fondements de la beauté, c'est souvent une mise en relation avec un fondement divin. mais dont, à contrario, le jardinier Huppe-Noir ne se réclame absolument pas, non pas qu'il soit animiste, je pense, je ne lui ai pas posé la question, mais je pense qu'il se réclame catholique, mais il se réserve le droit d'apprécier la beauté comme il le souhaite et de manière immédiate et directe et sans passer par des décors, sans passer par des codes, par des systèmes de signes auxquels Ronsard, lui, a totalement répondu, puisque sa propre poésie tient beaucoup d'une codification très mathématique, très mécaniste, qui lui a permis d'être créatif et inventif en termes de versification, mais contrairement à ce qu'il en a dit et contrairement à ce que l'on en dit parfois, qu'il a placé au service d'une certaine beauté, mais l'a éloigné d'une autre.
Alors on peut dire que pour Ronsard, donc, qui écrivait, qui parlait de végétation, de fleurs, de jardins, mais dans des poèmes qui peut-être on pourrait dire qu'il y a la forme, mais pas le fond. C'est presque scolaire, c'est de l'écriture. Et là, dans le jardin, il met le nez sur les parfums, les couleurs, les bruits. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une analogie entre l'arbre bruissant et fouillant le ciel de ses branchages et de ses feuillages, et la langue écrite qui, pour ne pas mourir, doit toujours renouveler ses feuilles. Donc, c'est de l'écriture, ces branches qui se baladent dans le ciel, au milieu presque des nuages, et c'est comme si ça cherchait des mots, et les feuilles qui tombent, qui se renouvellent, et puis l'écriture qui cherche, qui fouille dans mille mots, qui en invente d'autres, etc. Il y a une sorte de parallélisme aussi.
Tout à fait. Bah, finalement, vous trouvez vous-même un parallélisme. Donc, peut-être Ronsard a eu une intuition grâce à l'intercession du jardinier Huppe-Noir. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie effectivement des parallélismes ou des hybridations entre les lettres et puis le monde végétal et le jardinage en particulier, qu'il aurait aimé déceler. Dans cet art du jardin. Mais effectivement, moi j'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire et j'ai tendance à considérer qu'un arbre, d'une certaine manière, écrit sa vie dans le ciel, il écrit sa biographie. Et lorsqu'on est un peu exercé, bon, il se trouve que moi, à la base, je suis écologue, donc j'ai ce regard qui me permet de déceler dans la belle figure d'un arbre, ce qu'il tient de sa vie et de cette manière dont il a donné à voir l'histoire de sa vie par sa propre figure et ce qui fait que cette figure se confond avec sa propre biographie. Donc l'arbre, en quelque sorte, est effectivement une forme d'écriture. Alors l'un et l'autre, Huppe-Noir et Ronsard, approchent effectivement cette réalité, mais n'en ont pas tout à fait conscience ni l'un ni l'autre. Pas aussi bien que vous, en tout cas.
Merci. Mais Huppe-Noir, déjà ce nom ombrageux m'a fait imaginer un travail en ombre et lumière. Huppe-Noir, et il y a du mystère et effectivement le personnage est mystérieux. Il est remarquablement lettré pour un homme de sa condition, donc intrigue, donc perspective. Et puis s'instaure entre eux un rapport, un échange teinté de rivalité et par moments d'hostilité nette de la part du jardinier pour le poète. Mais il y a toujours, chacun reste dans son autoroute, il y a le respect mutuel, mais à la fin, il y a un voile qui se lève et donc il y a une chute qui renouvelle la lecture du roman. Et en ce sens, j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre qui est vivant et bruissant, coloré, parfumé. Mais alors, ce que je voulais vous demander, c'est comment avez-vous pris conscience de votre adhésion aiguë au monde végétal et à la nécessité de le protéger si nous voulons que la vie continue sur notre chère planète. Comment c'est rentré en vous tout ça? Est-ce que c'est depuis l'enfance? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est des lectures? Est-ce qu'il y a des choses un peu artificielles que vous avez assimilées, que vous avez intégrées, qui vous ont constitué? Ou bien racontez-moi.
Non, c'est difficile parce que, comment dire, j'ai un peu le nez dans le guidon, du mal à me détacher à l'égard de moi-même, mais il me semble que c'est un peu tout cela à la fois, ce que vous venez de décrire, une sensibilité, une aspiration naturelle certainement, qui m'a rapproché du végétal, sans doute à la faveur d'intercesseurs, qu'il s'agisse de personnes au sein de ma famille ou autour, d'agriculteurs dont j'ai vu comment ils prenaient soin des plantes, et pas seulement des plantes, mais en particulier des plantes et des arbres. Et alors après, c'est à la faveur de rencontres et puis aussi peut-être de mon propre métier d'écologue, où je me suis un peu peut-être lassé d'une approche que j'ai trouvée beaucoup trop mécaniste, beaucoup trop à distance à l'égard du vivant. Et je me suis intéressé à d'autres approches qui étaient plus des approches nourries par des anthropologues qui proposaient une relation beaucoup plus sensible au vivant. Et c'est là, bon alors là, les lectures effectivement, mais pas seulement les lectures, les pratiques sont entrées en jeu pour me convaincre que, enfin, je ne vois pas d'autre issue possible que remettre au moins les enfants à venir au contact, au plein contact des réalités du vivant, parce qu'il faut qu'ils touchent le vivant pour que par la suite ils soient touchés eux-mêmes par ce même vivant, quoi. À leur tour, comme Hübner l'a fait, il faut qu'ils mettent les mains dans la terre et qu'ils soient saisis surtout par cette beauté. Et ça, j'y crois beaucoup. Alors, bon, voilà, c'est le grand aphorisme de François Tchène qui avait repris Dostoïevski. Il dit, parce qu'il n'est pas décédé, François Tchène, il faut sauver la beauté du monde et nous serons sauvés avec elle. Et je trouve ça très, très profond. Et je partage cette conviction. Je pense que si nous retrouvons le sens de la beauté, nous ne pouvons plus abîmer notre monde comme nous le faisons. Mais malheureusement, la beauté dont on parle, c'est plutôt, enfin, je vais me répéter, mais la beauté dont parlait Ronsard n'est pas assez la beauté dont parlait le jardinier Hübner.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur Jacques Tassin, de nous avoir présenté votre dernier livre. On peut dire que c'est un roman.
Oui, c'est un roman.
Dont le titre est Le jardinier de Ronsard, ça paraît aux éditions d'Ile Jacob, et au plaisir de lire d'autres livres de vous et puis d'en parler. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Au revoir.
Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.